Nous allons comprendre pourquoi. La matinée se déroule. Il y a un mot-clé qui est donné depuis tout à l'heure. Est-ce que ça fait écho en vous depuis tout à l'heure? On parle de temps. Ma prédication, c'est le temps. Vous voyez? Alors, comment allez-vous bien? Vous allez vraiment bien? Oui? J'entends souvent, un jour à la fois. C'est certain, il est difficile de faire autrement. On vit un jour à la fois. Ça dépend du temps. Oui, mais de quel temps parlons-nous? Effectivement, celui que nous avons dehors n'est pas terrible et il peut nous déprimer. J'entends dans certains milieux chrétiens, je n'ai pas le temps d'aller au culte ce matin. J'ai beaucoup de problèmes à donner du temps au Seigneur. Nous entendons ça régulièrement. Je suis débordé, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Nous sommes venus ce matin tous. Parce que nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de venir célébrer notre Seigneur. Parce que nous sommes convaincus et nous devons être convaincus ce matin que nous n'allons pas perdre notre temps. Et pourquoi nous n'allons pas perdre notre temps? Parce que c'est le temps du Seigneur. C'est le temps prévu pour nous. C'est le temps qu'il nous a donné. C'est le temps préparé d'avance pour notre Seigneur, parce que par son Saint-Esprit, il veut nous révéler sa vérité. Il a quelque chose à mettre dans ton cœur, Sandy. Il a quelque chose à mettre dans ton cœur, Alexis. Et c'est le temps de Dieu. C'est aujourd'hui le temps favorable du Seigneur. Amen. Amen. Dieu est le maître du temps. Et ce temps est favorable. Est favorable pour ses enfants. Voilà le thème de ma prédication aujourd'hui. Vivre le présent de Dieu pour nos vies. Vivre le présent de Dieu pour nos vies. Il est quelle heure? D'accord. Nous allons prendre un verset biblique clé. Je vais demander à Arnaud, qui a une voix extraordinaire, de bien vouloir nous le lire. C'est dans Ecclésiaste 3, au verset 1, dans la version Louis II.
Il y a un temps pour tout. Oh, elle est pas terrible la voix. Attends. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux.
Vas-y, vas-y, continue.
Ben, j'attends que ça arrive.
Ah. Prends ton temps.
C'est le temps de Dieu. Ouais, alors je dégaine ma Bible. Ce ne sera peut-être pas la même version. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, alléluia, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Amen.
Amen.
Nous avons vu dans ce verset biblique, l'Ecclésiaste nous affirme, dans ses 14 paires de contraires, que toute activité humaine est envisagée de façon binaire, dans un double aspect, le positif, le négatif. Et ce positif-négatif nous enferme dans une réelle contradiction. Il y a un temps pour toute chose sous ce ciel, et toute chose a son temps. Vous allez me dire, c'est logique. Dieu est logique. De nos jours, on dit facilement, il y a un temps pour tout, comme on dirait. Tout vient à point pour celui qui sait attendre. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, on est toujours dans la logique. Le tout est de choisir son temps, c'est-à-dire de ne pas vivre à contre-temps et être dans les temps. Comme c'est difficile. Nous avons tous cette dualité en nous. Je vous l'ai expliqué lors de ma dernière prédication sur la liberté entre l'être spirituel et l'être charnel, le combat constant que nous avons en nous. Alors, quelle est la définition du temps? Je ne vais pas vous donner une définition philosophique. Je ne suis pas là pour vous faire une étude biblique et je ne suis pas philosophe. Chacun a sa propre définition du temps. Et nous pourrions dire, c'est la durée limitée considérée par rapport à l'usage que l'on en fait. Tout le monde peut être d'accord avec ça. Connaissez-vous Golda Meir? Golda Meir a été le premier ministre israélien. Et en son temps, Golda Meir a dit, l'homme doit être maître de son temps et non son esclave. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça résonne? Sommes-nous esclaves de notre temps? Nous pouvons à l'instant comparer nos montres. Chacun. Nous avons tous une heure différente. Peut-être à la 30e seconde près. Mais nous avons tous une montre différente. Vous imaginez les difficultés quand nous changeons d'heure. Pendant 48 heures, c'est terrible. Hein, c'est terrible. C'est perturbant. Vous voyez, les coureurs cyclistes, ils ont la course contre la montre. Nous avons, nous aussi, la course contre la montre de la vie. Nous courons après le temps, mais souvent, nous courons après le vent. Toute notre vie est basée sur le temps. De la gestation à notre mort. Qui arrive aujourd'hui à bien gérer son temps? Je vous pose la question. Qui arrive à bien gérer son temps? Personne ne répond. Qui aujourd'hui, de quelle façon nos retards peuvent impacter nos propres vies? De quelle façon nos retards peuvent impacter la vie des autres? Vous voyez, nous connaissons la réalité de nos vies faites de contre-temps. Nous sommes tous dans ce combat. Tous. Alors le temps, c'est vraiment un combat. Ceux qui ont fait l'armée, il n'y en a pas beaucoup entre nous, ont entendu... Oui. Ah, je pensais que tu allais lever la main, Antonia. Tu n'es pas israélienne? Ah, les Israéliens, ils font l'armée. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ouf, c'est rigide, ça. C'est rigide, hein. C'est dur. Dépêche-toi, je n'ai pas le temps, il me faut plus de temps. C'est le leitmotiv de nos vies. Imaginons un instant pouvoir ajouter une heure à nos 24 heures. Le calcul, il est vite fait. Est-ce que si nous avions devant nous 25 heures pour la journée, est-ce que nous aurions davantage de temps? Mais non, on serait toujours bousculé, on serait toujours surbooké. Nous ne pourrons jamais ralentir, l'arrêter, ni le remonter. Le temps défile. Nous serons toujours dans l'activisme. Parce que gérer notre temps, c'est un vrai problème. Mais certains s'en sortent plus ou moins bien. Certains sont plus organisés que d'autres. Pourquoi sommes-nous si nombreux à courir après ce temps qui passe? Pourquoi nous remplissons nos agendas à ras-bord comme si nous luttions contre la peur du vide dans nos vies? Pourquoi? Vous allez me répondre, je vous entends déjà, Mais c'est l'air du temps. C'est l'air du temps, c'est la vie d'aujourd'hui. Il faut vivre avec son temps. C'est vrai, moi j'ai été en panne d'ordinateur, ça fait encore 3 semaines, et j'ai des problèmes, je suis coupé par rapport à la communication. Il faut vivre avec son temps. La vie est si courte. Oui, oui. Certains disent, le temps c'est de l'argent. J'ai besoin de courir, le temps c'est précieux, le temps c'est de l'argent. Oui, mais que nous dit la parole de Dieu? Dans Matthieu 6 au verset 33, la parole nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça fait écho chez vous. Amen. 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 Nous avons de plus en plus besoin de temps, pourtant le temps libre. Mais nous en avons gagné. Nous en avons gagné considérablement. Aujourd'hui, beaucoup font 35 heures. Qui n'a pas des RTT aujourd'hui? Nous avons la 5e semaine. Vous savez que depuis le 19e siècle, nous gagnons 3 mois d'espérance de vie par an. C'est énorme. C'est énorme. Mais vous voyez, c'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe parce que le monde actuel fait que nous sommes, et c'est le mal du siècle, toujours en train de courir après ce temps. Vous voyez? Alors les pessimistes vont vous dire, avec le temps va, tout s'en va. Oui. Les optimistes vont vous dire, avec le temps, tout arrive. Tout arrive. Et les réalistes, que vont vous dire les réalistes? Ils vont vous parler de la marque du temps. Ils vont vous parler de la réalité de leur vie qui se déroule devant eux, et cela depuis de nombreuses années. Vous voyez, ça, ce sont les réalistes. Mais parlons un peu des marques du temps. Je ne vais pas parler de ce qui fâche. On va parler de choses un peu plus agréables. On va parler des cheveux. Moi, je l'ai intégré. Il n'y a pas de souci. Ces cheveux qui ne tiennent plus à nous. Ces cheveux qui s'en vont. La parole nous dit que le Seigneur, c'est le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il le sait. Pour certains, au début, ils sont d'origine noire. Noir comme un poivre. Ensuite, on devient poivre et sel. Ensuite, on devient sel et poivre pour finir comme le sel. Ce sont les marques du temps. Ce sont les marques du temps. Avez-vous déjà pris un coup de vieux? Attention, je ne vous parle pas de prendre ce que je viens de vous dire, la question, au sens propre. Je vous demande de prendre la question au sens figuré. On ne va pas martyriser les personnes âgées. Il n'y en est pas question. Vous voyez? Pour ma femme, Michel, tout s'est déclenché le 7 octobre 2004, avec la naissance de notre petit-fils. Le soir même, elle a dû s'habituer à dormir avec un grand-père. Moi, je m'y suis fait. Pas de souci. Nous avons tous l'impression que le temps s'accélère. Les années passent plus ou moins vite. Vous trouvez aussi que le temps s'accélère? Que le temps passe de plus en plus vite. Vous voyez? Si nous prenons le temps, nous pourrions remarquer que dans l'absolu, l'espace-temps ne change pas, mais c'est notre perception du temps qui change. Les retraités me disent au salon, vous verrez, quand vous serez en retraite, ça passera de plus en plus vite. Y a-t-il des retraités parmi nous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le temps passe encore plus vite? Moi, j'ai le temps, j'ai encore 10 années, je vais en profiter, le temps passera un peu moins vite. Oui. Mais pourquoi les retraités courent-ils toujours comme ça? Pourquoi ont-ils des agendas de ministres? Pourquoi on les retrouve à 8h30 dans les grands magasins, ils passent en dessous des grilles pour aller plus vite? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un laps de temps devant eux, de vie, ils veulent en profiter un maximum. Oui, c'est ce qu'ils me disent. C'est ce qu'ils me disent. Chacun a sa propre notion du temps. Chacun a sa propre expression du temps. C'est le déjà là. Ou le pas encore. Au-delà de ces temps compliqués pour l'Afrique aujourd'hui, Dieu bénit ce continent. Dieu bénit l'Afrique. Je ne vous entends pas, les Africains. Amen. Amen. Dieu bénit les Africains. Amen. Amen. J'ai beaucoup d'amis africains. J'aime l'Afrique. J'aime sa culture. J'aime aussi la cuisine africaine. J'aime la cuisine africaine. Alors, vous le prenez comme vous voulez. Si c'est une invitation, vous m'avez compris. Mais pour Michel, vous lui faites un steak frites parce que la cuisine... Enfin, j'ai mangé dernièrement malgache et Michel ne s'en est pas plaint. Hein? Bon. Vous avez remarqué, c'est incontestable. Les Africains, vous les Africains que j'aime, vous avez une culture et une approche différente du temps. J'aimerais bien de temps en temps être africain, je serais moins stressé. C'est sûr. En France, on dit, nous avons l'heure, les Africains ont le temps. C'est une réalité. Mais un proverbe africain dit, tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. Est-ce que c'est vrai? On est dans la réalité, là. Hein? On parle de choses vraies. Hein? Regardons le psaume 90 au verset 12. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Vous voyez, nous vivons peut-être l'un des derniers jours de notre vie. Aujourd'hui, le souffle de nos jours ne nous appartient pas. Mais nos jours sont comptés. Et nos jours sont inscrits dans le grand livre de la vie, dans les cieux. C'est Dieu qui les a écrits. Mais quand nous prenons ce précieux temps, et quand nous le mettons au service de notre frère, de notre sœur, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est ce que nous vivons dans nos assemblées. C'est la fraternité qui doit être la nôtre. Donner notre don à Dieu, oui, mais aussi à notre frère, à notre sœur, à notre église, à notre pasteur, à notre assemblée. Quel est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre femme? Je vois réfléchir, Michel. Oui, le plus beau cadeau que nous puissions faire à notre femme, c'est de s'asseoir devant elle, de se taire. Je parle dans une présence réelle, parce qu'on peut être présent et indisponible. Je parle dans une présence réelle. Mais le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre femme, c'est de vous asseoir devant elle, de vous taire et de la laisser parler. On est dans la vérité. Et alors vous allez voir, c'est magique. C'est magique. C'est du bonheur. S'asseoir et se taire. Waouh ! Vous voyez, les plus beaux cadeaux, c'est nous. Tu peux dire à ton voisin, t'es un cadeau pour moi. Tu peux dire à ton voisin, t'es un cadeau pour moi. Dieu nous a fait des cadeaux les uns les autres. Mais vous voyez, si nous n'arrivons pas à un certain moment à pouvoir ouvrir nos cadeaux, prendre le temps d'ouvrir le cadeau, et de découvrir le cœur de ton frère, mais tu passes à côté de quelque chose. Nous vivons des études bibliques partagées tous les mardis soirs et nous sommes en train d'apprendre à nous connaître. Nous sommes en train d'apprendre à nous découvrir. Nous sommes tous des cadeaux les uns pour les autres. Alors vous voyez les conséquences de la course, les conséquences du temps, du stress. Eh bien, bien sûr, il y a le stress, bien sûr, il y a les angoisses, bien sûr, les angoisses qui mènent à la dépression. Mais vous savez qu'en France, on est l'un des plus grands consommateurs de produits contre des anxiolytiques, des somnifères qui nous servent de béquilles. Vous savez que j'en connais certains qui, pour s'endormir, comptent les moutons, mais pour aller plus vite, ils les font courir. Oui, ils les font courir. Est-ce la volonté de Dieu que les frères, les sœurs, que ses enfants courent ? La parole nous dit dans Matthieu 11, verset 30, que le joug, le fardeau est léger. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un temps pour toute chose, mais pas pour courir comme nous faisons. Alors quels sont les temps de Dieu ? Quels sont les temps de Dieu ? Dans Ecclésiaste 3, verset 11, la parole nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » C'est la parole. Dieu est à l'œuvre pour faire du bien, mais il le fait en son temps. Il est maître du temps et des circonstances de l'homme dans le monde et dans la vie de chacun de ses enfants. Vous y croyez ? Amen. Alors avons-nous la même notion du temps que Dieu ? Mais non, certainement pas. Dans 2 Pierre, au verset 3, au verset 8, la parole nous dit « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Voilà les temps de Dieu. Dieu a une notion différente de l'homme. Il a une notion différente du temps par rapport à l'homme, par rapport au temps qui s'écoule. Et dans la Bible, nous pouvons relever différents temps de Dieu. La Bible, nous pouvons relever le temps chronos, le temps de la création. C'est dans Genèse 1, verset 5. « Ainsi, il y eut un matin soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Remarquez ce que dit la parole. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. La journée pour nous commence quand ? Elle commence le matin. Elle ne commence pas le soir. Vous voyez qu'il y a déjà une différence. Le temps chronos, c'est ce temps qui passe, qui est cloisonné avec le passé, le présent, l'avenir. Le temps de Dieu, c'est le premier livre de la Genèse jusqu'au 66e, l'Apocalypse, la révélation de la fin des temps. Puis il y a le temps kairos. Le temps kairos, en grec, c'est le temps nouveau. C'est le temps à saisir, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité que nous devons saisir. C'est l'occasion de Dieu pour notre vie, enfin d'entrer dans ses plans. Ses plans qui nous sont révélés par son Saint-Esprit. Abraham a eu le temps favorable de Dieu. Dieu lui a dit, quitte ton pays pour la terre que je te donnerai. Moïse a eu le temps favorable de Dieu. Va, délivre mon peuple. Le roi David, qui était berger, le temps favorable de Dieu, ça a été de devenir roi d'Israël. Paul est tombé sur le chemin de Damas. Le temps favorable de Dieu, c'était la conversion de Paul. La Bible nous parle aussi des temps des nations. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous sommes pris par le temps, vous voyez. Et au regard de la Bible, nous sommes encore dans les temps messianiques, dans les temps davidiques. Toutes les prophéties se sont réalisées, notamment celles d'Ésaïe. Toutes. Jésus-Christ qui aurait été Jésus le Messie. Yeshua le Mashiach, en hébreu, Dieu guérit par son oint. Vous ne pourrez plus me dire que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous le savez. Amen. Quand on proclame le nom de Dieu, dans son nom, il y a la guérison. Dieu guérit. Amen. Dans Jean 3, 16, nous connaissons tous la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde, c'est du passé composé. Est-ce que nous pouvons remettre ce verset biblique au présent ? Dieu aime le monde. Dieu aime le monde, il donne encore aujourd'hui son Fils, afin que nous soyons sauvés, pour que nous vivions à la lumière de l'éternité. Depuis que Christ a tout accompli, nous sommes vraiment dans les temps de la fin, oui. Et nous attendons le retour glorieux de Jésus. Nous attendons la parousie, nous attendons la venue du Messie. Nous attendons la venue du Seigneur, du Roi des Rois, qui viendra établir son règne. Ce jour-là sera le jour du Seigneur. Ce jour-là sera le jour de la délivrance. Pourquoi ? Parce que le monde souffre comme une femme qui va accoucher, comme une femme avant l'accouchement. La parole nous le dit, dans Romains 8 au verset 22, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Le Seigneur revient bientôt, mais nul ne sait le moment ni l'heure. Veillez donc, la parole nous dit, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils viendra. On peut se rendre compte que Dieu est en train d'accélérer le temps. Vous êtes d'accord avec ça ? Dieu est en train d'accélérer son temps. Et on peut supposer que certaines prophéties sont en train de se réaliser. L'Alia, le retour des Juifs en Israël. Regardez un petit peu la situation géopolitique d'Israël avec les pays musulmans djihadistes qui sont autour. La destruction d'Israël est prophétisée. C'est prophétisé. C'est une dimension eschatologique. Regardons autour de nous les catastrophes naturelles. Regardons le tsunami. Regardons les inondations aujourd'hui dans le monde. On entend souvent dire les trompettes sont à la bouche. Oui, c'est biblique. Mais elles n'ont toujours pas sonné. Seul Dieu connaît le temps. Alors vous voyez, le gros problème, c'est que l'homme veut toujours être maître de son temps. Et l'homme veut se prendre la place de Dieu. Mais c'est Dieu qui est maître du temps. Nous voyons des tas de choses dans la Bible, des tas d'exemples. Nous voyons Sarah qui n'a pas voulu attendre le temps de Dieu pour la naissance. Elle a donné à Abraham, Agar, sa servante égyptienne, un enfant aîné, Ismaël. Ismaël a été béni. Et qui avait la bénédiction ? Qui avait la promesse de Dieu ? C'était Isaac. Nous savons aujourd'hui qu'Ismaël, dans la tradition biblique et coranique, est considéré comme l'ancêtre des Arabes et des musulmans. Qui sont aujourd'hui les pires ennemis d'Israël ? Vous vous rendez compte ? Nous sommes toujours au bénéfice de l'impatience de Sarah. Et l'antéchrist, aujourd'hui, s'est installé dans le monde. Vous vous rendez compte de ça ? Ouvrez les yeux. D'autres exemples relatent l'impatience. Il y a Martin Luther, il s'est obstiné à vouloir convertir les Juifs. Il est devenu antisémite, il a écrit des choses impossibles. Extraordinairement mauvaises. Il a voulu convertir les Juifs, mais Dieu seul peut convertir son peuple. Comme il lèvera le voile des yeux des musulmans. Nous allons cet après-midi à un baptême à 16h. Nous avons un ami musulman qui s'est converti. Dieu l'a pris, il l'a secoué, il lui a redonné un nom. Il s'appelle Henri aujourd'hui. Nous allons à son baptême cet après-midi. Qui nous annonce la fin du monde aujourd'hui ? Quelles sont les fausses prophéties ? Les témoins de Jéhovah nous ont annoncé la fin du monde avec la mort du dernier poilu. Paco Rabanne, le cataclysme, l'an 2000. Vous vous rendez compte de toutes ces conneries qu'on entend aujourd'hui ? Excusez-moi du mot connerie. Les Mayas, vous avez vu ce bins avec les Mayas ? Tout le monde voulait aller sur le mont de Bucarache. Quelle folie ! Quelle folie ! Le monde existe toujours aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons et nous voyons ce monde en pleine décadence. Alors dans quel temps sommes-nous aujourd'hui ? Dans quel temps sommes-nous ? Nous nous trouvons peut-être dans la salle d'attente de Dieu. Tu es peut-être assis dans la salle d'attente de Dieu. Tu attends peut-être ton tour. Oui. Tu ronges peut-être ton frein en attendant un temps favorable. Tu attends une réponse, tu attends un changement, tu attends une percée, tu attends un miracle. Tu attends l'entrée dans ton ministère. Mais quel est le temps favorable aujourd'hui de Dieu pour ta vie? Nous devons être convaincus que Dieu, par son Saint-Esprit, va nous parler. Nous devons être convaincus qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous sommes uniques, son plan est unique pour chacun de nous. Et dans Philippiens, au verset 6, la parole nous dit, j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en nous, en vous, son œuvre bonne, la poursuivra jusqu'à son achèvement. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le temps de la maturité. Il va se passer des choses dans cette église. Notre pasteur nous l'a dit tout à l'heure. Il y a des choses qui vont être bousculées, il y a des choses qui vont changer. Vous voyez, en préparant cette prédication, je l'avais dans mon cœur. C'est le temps du rafraîchissement, c'est le temps de la consécration, c'est le temps de l'adoration. C'est le temps du premier vent de la sainteté. C'est le temps du deuxième vent du royaume de Dieu. C'est le temps où Dieu prépare son épouse. Heureux seront ceux qui seront appelés au grand banquet, aux noces de l'agneau, c'est dans l'Apocalypse. Au temps de Dieu, nous recevrons tous une invitation, tous les enfants de Dieu. Nous serons convoqués, nous aurons là le nom sur l'enveloppe et nous serons à table avec Abraham, Isaac, Jacob. Nous serons à table avec les apôtres. Et celui qui présidera le banquet sera Jésus, sera le roi des rois, sera le seigneur des seigneurs. Nous y croyons. Amen, amen. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Oui, mais vous voyez, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Jésus est entré dans son ministère à 30 ans. Moïse a été appelé à 40 ans. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Nous arriverons à maturité spirituelle au temps de Dieu. C'est le chemin de la sanctification. Laissons l'œuvre de Dieu s'édifier en nous. Dieu est le maître du temps. Il est le potier. Et aujourd'hui, nous sommes dans ses mains malléables et nous serons façonnés à l'image de son Fils. Le présent de Dieu. Vous voyez, je regarde l'heure. Il y avait un message prophétique quand Jésus a été crucifié à la croix. Rappelez-vous, il a été crucifié à Golgotha, le lieu du crâne. Il y avait deux personnes à côté de lui, deux larrons. Deux larrons qui représentaient une prophétie imagée. C'était l'hier, c'était le demain, c'était la malédiction, c'était la bénédiction, c'était la mort, c'était la vie. L'un d'eux était lié par son passé, par tout le mal qu'il avait fait. L'autre avait son attention fixée, non sur l'avenir, mais dans la réalité du présent. Christ était devant lui. Ce qui le poussa à dire, c'est dans Luc 23, « Quand tu seras dans ton règne, que fit Jésus ?» Jésus changea la situation parce que c'était le temps. Jésus bouscula les circonstances. Il lui répondit, aujourd'hui tu seras dans le paradis. Mais à la lecture de la Bible, on sait très bien que dans les trois premiers jours, Jésus n'était pas au paradis. Il était descendu aux enfers, avant de ressusciter au troisième jour. Cette parole, c'est que en permettant aux brigands qu'aujourd'hui, il serait avec lui dans le paradis. C'est la même chose qu'il nous dit de nos jours encore aujourd'hui. N'attends pas demain, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu est la révélation qui touche l'éternité. La seule chose qui existe, c'est le présent, l'aujourd'hui, le maintenant de Dieu pour nos vies. C'est maintenant. C'est maintenant. La grâce de Dieu nous est offerte dans le présent de Dieu. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dans Matthieu 28, au verset 20, la parole nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est conjugué à quel temps? C'est au présent. Je suis avec vous. Jésus est avec toi. Le présent de Dieu est maintenant. C'est le temps favorable. Il est plus important de demeurer en lui aujourd'hui que de connaître l'avenir. Il est « Je suis ». C'est comme ça que Dieu se présente à Moïse. Si nous voulons connaître la fin des temps pour nos vies, c'est dans le présent de Dieu. Il est temps à présent. L'Éternel est vivant. Il règne. Il règne jusqu'à la fin des temps. Vous êtes d'accord? Qu'avons-nous? Avons-nous donné notre vie au Seigneur? Oui, j'espère, il n'est pas trop tard. Alors vous voyez le paradoxe, c'est que nous aussi nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous lui avons donné notre temps. Le temps, c'est notre vie. Parce que s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Ça fait écho chez vous ? Quand nous le mettons à l'épreuve, le Seigneur, avec la dîme de notre argent, est-ce qu'il nous ouvre les écluses des cieux ? Amen. Vous êtes d'accord ? Quand nous lui donnons le minimum de notre temps, c'est-à-dire la dîme de notre temps, les 2h40, pensez-vous que nous allons être bénis abondamment ? Amen. Amen. Alors arrêtons de courir. Arrêtons de courir après le temps. Vous savez que Dieu attache une importance à notre temps. Donnons-lui nos agendas. Parce qu'il va nous surprendre. Il va nous surprendre par les bénédictions. Il va nous bénir parce que son aide divine va nous permettre d'établir les priorités dans nos vies. Les délais de Dieu ne sont jamais des retards. Dieu n'est jamais en retard. Jamais, jamais. Alors vous voyez, pour conclure, c'est le temps, il est temps. Il est temps de choisir la vie. Il est temps d'annoncer son évangile, il est temps. Parce que, comme disaient Michel et Virginie tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train de mourir dans la rue. Il y a des gens qui meurent. Il est temps. Il est temps d'annoncer la parole de Christ. Ne perdons plus de temps. C'est le temps de chercher sa face. C'est le temps de chercher la face de Dieu, de nous mettre en sa présence. C'est le temps de la consécration. Demeurer en lui et son esprit en nous. C'est le temps de se lever pour marcher par la foi, de mettre notre foi en action. C'est le temps de demander et nous recevrons dans le nom de Jésus. C'est le temps. Et quel que soit notre âge, ce n'est pas réservé aux jeunes. C'est réservé à toute la famille de Dieu. Aspirons aux dons les meilleurs. Aspirons aux dons les meilleurs afin que l'on puisse entrer au service de Dieu. Il n'y a pas d'âge. Chacun doit rentrer dans son ministère afin de voir l'œuvre complète de Jésus s'accomplir dans notre assemblée. Nous voulons lui laisser et le laisser s'exprimer lui-même dans notre assemblée. Nous voulons voir se lever des apôtres. Nous voulons voir se lever des prophètes, des évangélistes, des pasteurs avec un cœur de berger. Nous voulons voir des enseignants parce que nous voulons voir notre Église édifiée. Nous voulons voir le corps du Christ édifié là, maintenant, aujourd'hui. Quand nous sommes serviteurs, vous savez, nous ne prenons jamais notre retraite. Jamais. Nous pouvons peut-être passer le flambeau, mais jusqu'à notre dernier souffle, nous servons Dieu. Certains prient le Seigneur une demi-heure, peut-être un quart d'heure. D'autres ne sont jamais un quart d'heure ni une demi-heure sans prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier le Tout-Puissant. Parce que la puissance de l'onction de Dieu en action, c'est maintenant. C'est maintenant. Les miracles, les guérisons, les prodiges, les bénédictions, c'est maintenant au nom de Jésus. Amen. C'est maintenant. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est le temps de se nourrir de la parole pour nos vies. C'est le temps pour jeûner afin de recevoir l'approbation de la volonté de Dieu. C'est le temps, il est temps de pardonner, d'être pardonné, de se pardonner. Il est temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps d'être en paix. C'est le temps d'être en paix avec tous les hommes. C'est la volonté de Dieu. Dans la mesure où ça nous appartient à nous, nous devons être en paix avec tous les hommes. C'est le temps du pardon. C'est le temps de la réconciliation. C'est le temps d'encourager. C'est le temps de témoigner. C'est le temps de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, la grâce qu'il a posée sur ta vie. C'est le temps de témoigner. C'est le temps de semer la parole de vie comme nos frères Gédéon le font. Et si vous n'êtes pas rentré dans votre ministère, si vous avez un profil d'évangéliste, allez les retrouver tout à l'heure. Allez leur donner un coup de main. J'ai mangé avec eux à deux reprises. Vraiment, ils ont la volonté, ce sont des guerriers. C'est le temps aussi d'avoir le shalom et la paix de Dieu. En conclusion, vous voyez, la moisson est grande. La moisson est très grande. Mais la moisson, c'est la fin du monde. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans quelle saison sommes-nous ? Dans quelle saison sommes-nous ? Nous sommes dans la saison des plantations. Nous sommes dans la saison des semailles. Nous devons semer. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous sèmerons aujourd'hui, nous le récolterons. Tout. Il n'est jamais trop tard. Quoi que l'on ait fait, il n'est jamais trop tard pour semer l'amour. Il n'est jamais trop tard pour semer des bonnes choses dans nos familles, autour de nous. Semons la bonne parole, semons. Mais quand vous témoignez, quand vous évangélisez, la première chose qu'il faut faire, d'accord, c'est donner votre témoignage. Mais quand vous parlez de l'amour de Christ, ça touche les cœurs. Ça touche les cœurs. Nous devons semer l'amour de Christ. Il est temps de semer la bonne semence. J'ai surpris quelques personnes. Je vais conclure. Il y a Jaska qui est un chanteur de rap. Et il y a une chanson que je faisais écouter dernièrement à une sœur chrétienne. Elle m'a dit, Pascal, t'écoutes ça? Bah oui, j'écoute ça. Bah oui. Et les paroles disent, celui qui aime sème l'amour dans les cœurs. Vous avez entendu? Celui qui aime sème l'amour dans les cœurs. Celui qui aime amène la joie dans les vies. Celui qui vit se donne pour celles et ceux qu'il aime. Et celui qui aime reçoit l'amour à son tour. C'est beau. C'est beau, moi ça me touche. Ne nous lassons pas de faire du bien. Et vous voyez, là ça sera ma conclusion. Après tout ça, ce sera le temps d'aller nous asseoir avec Jésus le Messie. Ce sera le temps d'aller s'asseoir dans son présent, pour toujours, à la lumière de l'éternité. Mais nous avons le temps. Faites toutes choses, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce temps favorable. Tu as un projet pour chacun de nous, Seigneur, en son temps. Donne-nous la patience d'attendre le temps favorable pour nos vies. Nous savons que tu vas nous bénir. Nous savons que nous sommes tes enfants bien-aimés et que tu fais chaque chose belle en son temps. Alors Seigneur, nous voulons vraiment attendre ton approbation pour entrer dans tes plans et que à toi soit toute la gloire. Amen.